Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin.
Le meilleur du Super Moscato Show, c'est reparti pour une nouvelle session. 3 heures de direct, 3 heures avec Adrien à repasser les meilleurs moments de la saison.
Salut Pierrot, on a
on
un guest aujourd'hui.
On va se régaler aujourd'hui avec Stephen Brun.
Oui.
Salut les amis.
Ah, ah micro.
Salut les amis, j'ai entendu les petits grillons. Voilà,
ouais. C'est les cigales ça.
C'est les cigales, les
grillons. Qu'est-ce que tu fais à Paris en 13 août?
Bah écoute, je suis en vacances, là, j'alterne entre les week-ends à Trouville-sur-Mer et à Paris avec quelques tours à tennis.
Ah,
voilà,
tu vois. C'est vrai que tu as acheté à Trouville-sur-Mer.
De par Stephen Brunch.
Stephen Brunch. Saison 3, et celle-là va faire mal, je te le dis tout de suite, Pierrot.
Il y a des nouveautés.
Il y a des nouveautés, surtout il y a des invités exceptionnels. Restez bien avec nous l'année prochaine parce que Jordan sera là. Ouais. Alors, c'est Jordan Deluxe. Il y aura.
Basket Time reprend à la rentrée, les gars.
Bah, bien sûr.
Ah. Surtout Victor Wembanyama. Après cette saison incroyable voilà. d'NBA.
Ah ouais, quelle saison de Victor Wembanyama.
On a vibré, les gars.
Exceptionnel.
Grâce à vous aussi, en partie. Grâce à vous. Ça, Pierrot, t'es en forme?
On est fatigué parce qu'on s'est levé toutes les nuits pendant tout le mois de juin. On est très fatigué. Ouais. On n'a pas encore récupéré.
En plus, il fait chaud à Paris, c'est un peu lourd. Mais bon, on va rire pendant 3 heures. Pierrot, tu me l'as dit. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va parler de Antoine Dupont. Manque-t-on de respect à Antoine Dupont? Moscato règle le problème. Et ça, c'est à 16h.
Oui,
et
puis
on va revenir sur un moment très fort du début d'année 2026, la finale de la CAN. Vous vous souvenez de cette panenka ratée de Brahim Diaz? Et bien, dans le match d'après, Mbappé avait fait une panenka.
Pour lui rendre hommage.
Bah oui, mais bon, c'est déplacé, non? Ça, c'est le débat à 17h. Avant ça, dans un instant, on débat sur Pogacar. Et puis, bien sûr, il y aura des invités incroyables comme Lou Jean Monod, Mathis Dumas. Vous vous souvenez de Mathis Dumas? Vous savez qui c'est?
Le navigateur.
Dumas. Non, pas du tout. Mathis Dumas, c'est le guide d'Inoxtag.
Ah, exact. Ah, oui. Il a accompagné pour son aventure sur l'Everest.
Exactement. Journaux moyens, oui. Qui a dit, comme d'habitude.
Première édition, 15h45, les discours rapides. Les meetings ratés des politiques. Vous vous souvenez de Marine Tondelier? C'était l'occasion de revivre Castaner en chauffeur de salle et Marlène Schiappa, trop méconnue, au parc floral. Allez, allez, le parc floral. Voilà, c'était magnifique lors d'une campagne aux européennes. Et 16h45, la deuxième édition du journal moyen. Pour toi, Pierrot, Didier Deschamps était présent dans le 20h de Gilles Boulot. Voilà, 20h, c'était le jour de la présentation de la liste pour la Coupe du Monde de foot. Et Kikadi exceptionnel, Denis Charvet est devenu fou. Il va devenir fou dans ce Kikadi à 17h45.
Et puis dans cette émission, il y a le débat LeBron James, Michael Jordan. Hein.
Qui est le GOAT?
Non, on sait qu'il y a le GOAT. LeBron James est-il loin de Michael Jordan?
Est-il loin de Michael Jordan?
Est-ce qu'il est loin? Est-ce qu'il est proche?
Le problème, c'est qu'il ne se rapprochera plus beaucoup.
Ah, c'est fini là. Oh, quoique, on ne sait pas.
On ne sait pas, c'est sûr.
Une dernière saillie, on ne sait pas.
Signe à Boulazac, champion de France, est-ce que ça le rapproche?
On va le faire venir au Paris Basketball pour relancer le projet. Allez, tout de suite, Pogacar. Jusqu'à quand ça vous fera rêver? Vincent Moscato règle le problème. C'était après son écrasante victoire dans Milan-San Remo, sa démonstration plutôt.
Et bien, chute Tadej Pogacar, bien amoché. On l'a vu se relever, il est reparti, le Slovène.
Et tel le phénix, il ressort de sa boîte comme ça.
Il est en train de remonter tout le peloton, très bien aidé par son coéquipier Brandon McNulty.
René de ses cendres, tel le sphinx.
De renaître de leur cendre, un petit peu comme un sphinx.
C'est très chaud, c'est très chaud.
Attaque de Pogacar, attaque de Pogacar.
Pas que tu sois dérangé par tous les mecs qui lui demandent s'il va manger, Pogacar.
Pourquoi?
Hey, Tadej.
Et c'est parti pour Tadej Pogacar qui lance le sprint.
Ça me rappelle une action il n'y a pas si lointain.
Tom Pitcock dans sa roue.
Il y a deux roues et ça t'empêche pas de rouler même qu'elle se crevait. Hein,
de... Victoire de Tadej Pogacar.
Tel le lapin et la tortue avait démarré de.
Victoire de Tadej Pogacar au sprint.
Donc la morale de l'histoire.
C'est pas la peine de partir en avance, il faut arriver. Hein.
Moscato, il va te régler le problème.
Manu, il est exceptionnel.
Manu, il va te
allez,
droit.
Pour parler
Manu, il fonce dans le mur, mais il klaxonne. Il klaxonne, mais il fonce dans le mur.
On accueille Jérôme Pinault. Salut Jérôme.
Salut Jérôme.
Et bien sûr, Maria Azé qui a commenté le Milan-San Remo sur RMC. Salut Maria.
Salut Pierre. Salut tout le monde.
On attendait du spectacle. On n'a pas été déçus. Pogacar a gagné malgré une chute dans le final. Il est monumental, Vincent. On le savait déjà, mais peut-être un peu trop parce qu'il n'y a pas de match entre lui et les meilleurs du monde qui sont pourtant hyper forts. On a une grande génération de cyclistes. Hein. C'est pas un mec qui est seul au monde. Jusqu'à quand cette domination va vous faire rêver? Vincent règle le problème tout de suite avec vous au 32-16. On va donc revenir dans le final de ce Milan-San Remo avec Maria. Maria, ce qu'a fait Pogacar, on peut le dire, c'est surhumain.
Ouais, on s'attendait tous à le voir attaquer donc dans la Cipressa, sauf qu'à 32 km de l'arrivée, à quelques kilomètres de l'entrée justement dans la Cipressa, la clé de Milan-San Remo, où on perd la course si on n'est pas bien placé, Pogacar chute lourdement, il se relève vite, remonte sur son vélo, mais bien amoché, et surtout repart bien, bien loin du peloton. Donc là, avec Jérôme, on se dit, c'est terminé.
C'est très très compliqué, Cédric. Il faut être maintenant bien conscient que Tadej Pogacar doit rentrer dans le peloton, remonter le peloton,
ben oui,
et attaquer dans la Cipressa. Quasi impossible pour le Slovène. Il va faire une course poursuite. Alors évidemment, il va en doubler beaucoup des coureurs. Je ne veux pas m'avancer, mais je pense que on n'aura pas le Slovène dans le final.
Voilà, donc on pensait ne pas avoir le Slovène dans le final, sauf que c'est mal le connaître. Il la voulait absolument, cette victoire. Il est arraché sur tout le côté gauche, mais plus rien ne l'arrête. Il est bien aidé par le peloton qui se range pour le laisser passer.
Il reste 4 km 600. Je vais pas mettre ma main à couper, mais je pense que Tadej Pogacar va
tenter d'attaquer
puisqu'il est en tête maintenant.
Ça y est, il est devant, il y va.
Il est parti.
Le Slovène est incroyable.
Il est dans la roue de Brandon McNulty. Tadej Pogacar, il a tout remonté.
C'est incroyable. Incroyable.
Vous le disiez, il l'a jamais remporté. Il le veut, hein, ce Milan-San Remo. Ah,
voilà, donc il a remonté tout Tadej Pogacar et dans les derniers kilomètres de l'ascension de la Cipressa. Attaque de Tadej Pogacar, Alex, à l'instant, hein, dans les derniers kilomètres de l'ascension de la Cipressa. Attaque de Tadej Pogacar qui a chuté il y a peu. Hein. Tadej Pogacar, Tom Pitcock, Mathieu Van Der Poel, le Slovène pour l'instant n'a pas réussi à lâcher ses deux compères. Alors derrière Pogacar lâche Mathieu Van Der Poel et s'impose au sprint devant Tom Pitcock pour remporter son tout premier Milan San Remo après une course complètement dingue. À l'arrivée, le Slovène n'en revient pas.
J'ai cru que c'était terminé parce que je tombe avant l'un des endroits les plus importants de la course. Heureusement, je suis vite remonté sur mon vélo et je ne souffrais pas trop. Mon équipe a tout fait pour me remonter. Sans eux, j'aurais juste continué et attendu la ligne d'arrivée.
Alors, il avait déclaré préférer remporter Milan-San Remo plutôt que 6 fois le Tour de France. Eh bien, Milan-San Remo, au moins, c'est fait.
Alors, avant d'entendre
Maria,
l'avis de Vincent...
Par contre, je tenais à dire, Maria, je me regarde. Tu as un talent fou pour... Non, mais je te le dis.
Ah oui, c'est vrai.
Dis,
on avait vu la course.
C'est incroyable. Quoi.
Alors Vincent, avant de t'écouter, on va se projeter sur la suite parce que Pogacar peut faire un truc totalement unique, c'est tout gagner. Alors quand on dit tout gagner, c'est toutes les courses sur lesquelles il va s'aligner cette saison et le programme est colossal. Hein.
Ouais, le programme est énorme. Alors déjà, ce qui nous marque le plus, c'est qu'il pourrait remporter les 5 monuments la même saison. Aucun coureur ne l'a fait dans l'histoire, même pas 4 monuments dans la même saison. Donc c'est tout simplement exceptionnel. Pour ça, il faut qu'il remporte le Tour des Flandres le dimanche 5 avril et surtout son plus gros objectif Paris-Roubaix semaine après, le seul monument qu'il n'a pas encore remporté. Il lui resterait ensuite que Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie qui sont clairement ses courses favorites, pour un peu qu'il remporte le Tour de France, les championnats du monde au Canada et les championnats d'Europe en Slovénie, ce qui est très probable, un petit tour de Suisse et un petit tour
Roland-Garros on l'apprend
un petit tour de Suisse en plus dans la poche et donc le Slovène pourrait ne pas être battu de la saison. Ça pourrait être incroyable.
Est-ce que ça vous fait rêver ou est-ce que ça risque d'être trop à un moment, Vincent?
Après, je pense que les coureurs de ce calibre, c'est arrivé à Hinault, à tout le monde de chuter et de gagner. Tous ces mecs-là, dans la caisse, c'est mentalement, il y a quelque chose qui arrive. Quand il est au sol, il sait qu'il va attaquer de partout, qu'il va pas
ramener. Il a la rage.
Il a la rage. Parce que l'équipe, moi je veux bien l'équipe, il le ramène et tout, parce qu'il a les capacités. Il a les capacités parce qu'il devait souffrir. T'inquiète pas, déjà, t'as eu la peur quand t'es tombé, tu te remets sur le vélo, tu te dis, celle-là, c'est pas le temps. Tu sais, le feedback, là, tu sais, quand ça te revient, tu te dis, j'aurais pu me crever.
Tu sais que j'ai le corps, pour savoir si tout va bien.
Ouais, tu regardes, tu pars. Et là, tu pars. Tu te dis, là, ça, je vais rattraper tout ça. Il y a que les grands champions. C'est arrivé à tous les grands champions de se viander et de finir premier, de pas perdre sur le Tour de France, de pas perdre de minutes, de pas perdre de trucs. C'est arrivé, c'est très rare, mais il faut taper dans les Greg LeMond, dans les Hinault, dans les Fignon, dans tout ça, dans tous ces mecs, dans les Pogacar, il fait partie de cette lignée. Il est aussi, il se met à table avec Ronaldo et Zidane.
Bon, c'est pas la même chose. Pogacar, il se met à table avec Ronaldo et Zidane.
Oui, c'est pas la même chose, mais il se met à table de ces grands champions. Ouais. Mais pardi, parce que ça met, tu me dis ça, qu'il est tombé, qu'il est revenu, qu'il a gagné. Alors, je suis pas surpris.
Il a dit quand je suis tombé, je pensais avoir perdu.
Que c'était fini.
Il dit c'est fini.
Donc quand même, il, dans sa tête, il pense que c'est mort.
Bien sûr, parce que ça peut arriver plein de fois.
Non, mais surtout, c'est à côté, il y a encore juste une montée.
Ce que je veux te dire, c'est qu'il peut perdre plein de fois. S'il tombe 5 fois, il va perdre 3 fois. Mais 2 fois, il va, parce que c'est des grands champions, parce qu'il a ça dans la tronche, parce qu'il a un mental au-delà de tout le monde, parce qu'il a des poumons énormes. Là, c'est pas des, là, ça sent la pastille Valda quand il respire. Ça, c'est une flèche, on le dit. Et là, boum, en avant Simon, il a remis le couvert, il a gagné. Ça ne m'étonne pas plus que ça.
Alors, avant de détailler ça avec Jérôme Pinot, votre avis, Denis et Steve. Steve.
Pas du tout lassé, parce qu'il y a encore tellement de choses à accomplir, tellement de records à
battre. Alors moi non plus, pas lassé du tout, oui, est magnifique.
Parce qu'il y a encore, tellement de choses pour qu'il soit quasiment à l'unanimité le plus grand coureur de l'histoire de ce sport-là. Quand on pense que Merckx, qui a été l'un des coureurs les plus dominants, n'a gagné que 3 grands monuments sur une saison. Lui, je pense que, et Jérôme va en parler, parce que quand il gagne Milan-San Remo, il est pas loin de dire à demi-mot, c'est terminé, en fait, je reviendrai plus sur cette course-là. Ça veut dire que les 5 monuments, c'est cette saison, en fait. Si plus jamais il va faire Milan-San Remo.
Oui, mais ça, lui, c'est le roi des, il envoie des trucs, j'arrête à 27, c'est plus tard, tu vas pour le chronique jusqu'à 37.
Je sais pas. Moi, ce qui me fait rêver, c'est que, alors certes, il est tout seul tout là-haut, mais il y a quand même des mecs pour l'embêter. Jusqu'à preuve du contraire, Paris-Roubaix, le patron, c'est Mathieu Van Der Poel, et que
tant qu'il a pas fini,
il va être difficile à choper. Et dans son malheur, cette chute-là, il y a Van Der Poel qui tombe aussi, parce que si Van Der Poel tombe pas, je suis pas sûr que c'est le même papier de mariage, je suis pas sûr qu'on fasse les louanges de Pogacar. Moi, je m'en régale d'avoir un mec comme ça, qui est un talent générationnel dans son vélo, qui a encore beaucoup de choses à accomplir. Si ça dure encore 10 ans, oui, peut-être qu'au bout d'un moment, ça va saouler. Mais là, je trouve que c'est encore trop tôt pour être
assez... Mais ça saoule jamais, ça.
Denis,
les épopées longues, c'est encore plus.
Mais non,
et l'an prochain, et dans
le prochain,
il y a petit sexe. Oui, mais c'est que ça, s'il va lui filer des bâtons dans les roues, mais ça sera plus passionnant, plus il continuera, plus ça sera passionnant.
Alors, j'ai eu la chance d'écouter sur RMC, pas à la télé, parce que je n'avais pas la chaîne.
Et Maria est exceptionnelle. Hein.
Exceptionnelle avec Jérôme, binôme fabuleux. Non, mais sérieusement, Vincent te l'a dit, je voulais te le dire, je l'ai écouté, vous m'avez fait.
Jérôme,
qui fait ce que
Maria est très contente par vos compliments, par contre, si elle pouvait avoir une petite augmentation.
Non, mais
c'est parti de vos
salaires. Non, mais on était dans la course.
Les gens la payent sur RMC, tout le monde n'est pas payé.
Quand tu vois une course de vélo, c'est mieux d'avoir des images, mais là, on était avec vous, on était dans la course. Mais moi, non, mais je me régale. Parce qu'en fait, moi, je suis la génération Hino. Moi, j'ai connu Hino. Si tu veux, cette génération, on se lassait pas que Hino gagne. Mais on le badait. Moi, je le badais Hino. J'étais un fan d'Hino. Quand je peux être fan de Pogacar, parce que c'est surréaliste ce qu'il fait. En fait, c'est un champion hors norme, comme l'a été Hino, comme l'a été Merckx. Il y en a très peu. C'est-à-dire qu'on est dans la génération Pogacar et on la vit. Et mais pourquoi tu veux que ça s'arrête? Il n'y a aucune raison. Tu me parles de Van Der Poel. Mais Van Der Poel, hier, il avait l'occasion de gagner, mais il n'a pas gagné.
Il est tombé,
ouais,
il est
tombé.
Non, mais pourquoi on pose la question? Parce qu'en fait, avec cette chute qui normalement est rédhibitoire, on peut quand même se dire à posteriori, je ne sais pas si Jérôme va être d'accord, qu'il n'y avait pas de course en fait. C'est-à-dire que la course, elle était gagnée d'avance, puisqu'il lui arrive le pire qui puisse lui arriver, il gagne quand même.
Ça, tu ne sais pas, c'est de la science-fiction. Parce que
si Van Der Poel ne tombe pas, Van Der Poel peut-être qu'il
attaque Van Der Poel.
Alors Jérôme, qu'est-ce que tu en penses?
Je suis un peu d'accord avec chacun d'entre vous. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est phénoménal, c'est fabuleux et qu'il n'y a que lui qui peut le dire. Puisque encore une fois, Denis, heureusement que tu ne m'as pas écouté et encore moins pendant la course, que j'ai pratiquement posé le pari qu'il ne rentrerait pas et qu'il ne gagnerait pas. Au final, 3 km après, il attaquait. Donc déjà, je me suis planté. Mais en plus de cela, je pense que la chute de Mathieu Van Der Poel cumulée à celle de Van Aert joue beaucoup plus que celle simplement de Tadej Pogacar. Je m'explique. Ils ont fait une course-poursuite de malade et pendant qu'ils faisaient une course-poursuite, le peloton s'est trouvé dépourvu de ses repères. Et donc, ça n'a pas été le rythme fou dans la Cipressa. Si l'un des deux, là, ne tombe pas, c'est-à-dire si Van Der Poel ou Van Aert ne tombe pas, le rythme est différent dans la Cipressa. Et d'ailleurs, on a mis longtemps avec Maria à trouver Van Der Poel. Et quand on s'est aperçu que Van Der Poel n'était pas là non plus, on s'est aussi dit, ça n'avance pas si vite dans la Cipressa. Tous les éléments en défaveur de Pogacar ont finalement tourné à sa faveur. Mais après, ce qu'il fait, c'est phénoménal. Il n'y a que lui qui sait faire ça. En fait, c'est ça le truc. C'est que lui, quand il est rentré dans le peloton, c'est déjà un exploit. Quand il se remonte en tête de peloton, tu peux dire, j'attends le Poggio, je vais essayer. Non, lui, il change pas de plan, il attaque. Et là, c'est là que c'est fabuleux. Et c'est, je pense, le seul qui ferait ça. Même Van Der Poel ou Van Aert n'aurait pas fait ça. Mais il ne faut pas qu'on oublie que, comme vous l'avez dit, moi je n'ai pas eu la chance de connaître Bernard Hinault dans sa grande période, mais je pense que vous viviez ça aussi. On attendait que Bernard Hinault gagne. Et moi, je peux te dire que malgré tous les détracteurs, malgré tous les aigris, même si je sais par où est passé mon sport et même j'accepte que des gens puissent en douter, bah j'étais tellement content que Tadej Pogacar gagne de cette façon-là Milan-San Remo.
Mais parce surtout que c'est au sprint, un mythe et le coureur, Jérôme,
voilà, il y a eu du suspense, on a tout eu en fait. Il a pas fait 80 bandes tout seul et c'est un gars qui après la chute c'est remobilisé, est allé la chercher et c'est un monument gagné par un immense champion et tant mieux parce qu'il y a eu en plus ce suspense là dû à plein de choses qui peuvent arriver dans le vélo et qu'on peut pas prévoir.
Jérôme, est-ce que tu as un doute sur le sprint parce que on parle pas assez du sprint.
Il y a l'arrache. Hein.
Non, mais j'ai un doute.
Pitcock, il est là, il fait une course incroyable.
Il se trompe, c'est ça.
Alors, il s'est trompé de côté.
Qui est le meilleur en sprint si tout va bien quand il part de zéro.
Adrien, le problème, c'est qu'on parle d'un sprint au bout de 300 bornes en vélo, quoi. Et le problème, c'est que si ce même sprint a lieu au bout de 150, c'est pas le même vainqueur. Je pense que Pitcock va plus vite, mais Pitcock est tellement, tellement au bout de lui.
Il est entamé,
lui-même.
Mais
voilà. Sur le haut du podio,
il lui reste.
Il est avec les oreilles, il pédale avec tout ce qui lui reste. Et dans le sprint, il manque de lucidité. Et il attaque le sprint, il est pas du mauvais côté. Il est pas du bon côté de la route, quoi. Il lance le sprint côté barrière. Mais ça, c'est sûrement dû parce qu'il a pris 14 uppercuts et 3 crochets dans les 40 derniers kilomètres.
Après, il est fatigué parce qu'il fait d'autres sports, parce que Pitkowski.
Ah non.
Non, ça marche pas.
Non. On peut refuser, hein.
On refuse. Alors, j'ai dit, c'est bien tenté. je rends grâce au talent.
Oh là,
mais là, ça tombe, c'est bien. Bravo pour essayer. Et t'as peur. Celui qui a peur est un peu heureux. On peut y aller.
Tadej, oui.
T'aimes la tatane, tout ça. On prend.
Tadej. Je veux s'essouffler par un couillet.
Je vois le regard noir de Steve. Là, il y a un problème.
Merci à Jérôme Pinot et Maria Azé pour le cyclisme.
On a dit à Maria qu'elle était exceptionnelle.
Bravo, Maria et Jérôme. Exceptionnelle.
Maria.
Eh oui, Pogacar. Est-il le GOAT, tient de son sport, Pogacar?
Avec ce qu'il a fait cet été sur le Tour de France.
Est-il le Michael Jordan du vélo?
Il est pas loin, mais il est pas encore, moi, je pense.
Ah ouais, c'est Dimers pour toi.
Ah, encore Eddy, non?
Je sais pas, oui, Eddy, hein.
Ah, mais jusqu'à quand?
Je sais pas, jusqu'à un ou deux ans.
Qui est le plus fort, Eddy Merckx ou Eddy Mitchell?
Eddy Merckx.
Ah, il a fait les petites canailles, Eddy Mitchell. Hein. Ça change tout. Quoi.
Non, mais attendez, Eddy Merckx, c'est Johnny Hallyday.
Ah oui.
Eddy Mitchell, c'est pas Johnny Hallyday.
Ah, c'est une imitation d'une imitation de Johnny Hallyday.
Voilà. On adore Eddy Mitchell, hein, mais bon, c'est pas pareil. Quoi.
Allez, dans un instant, Strasbourg, le RC Strasbourg, les limites de la multipropriété. Puis on va parler biathlon dans le Super Moscato Show.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aiguin.
Le meilleur du Super Moscato Show dans une demi-heure. Manque-t-on de respect à Antoine Dupont? Vincent Moscato règle le problème. Supporters du Stade Toulousain, soyez bien avec nous et vous pouvez appeler au 32-16, hein, même si personne vous répondra parce que c'est une rediff.
Oui, mais appelez quand même.
C'est pas grave, si vous êtes énervé, vous appelez quand même.
Ah non, mais il y a toujours quelqu'un au 32-16, Pierrot.
En permanence, mec, en permanence. Hiver comme été, Pierrot. Il y a quelqu'un qui s'en croche.
Ce que je veux dire, c'est qu'on ne pourra pas vous prendre dans le débat puisque le débat il est déjà fait.
Retourne-toi, standard, ils sont là.
Voilà. Après, les Toulousains, l'été, ils sont dans leur montgolfière, non?
Ouais,
ils font le tour de. On salue Adrien et Max qui sont au standard derrière nous, Pierrot, qui récolte les appels toute l'année.
Allez, tout de suite, Strasbourg et les limites de la multipropriété.
RMC,
le cri de gueule du super Moscato Show.
Strasbourg, sorti de la Ligue Europa Conférence en demi-finale par le Rayo Vallecano. C'est pas l'élimination, notre cri de gueule. Non, Vincent, non, pas du tout. C'est la scène qui a suivi après la fin du match entre les supporters et leurs joueurs. Il y a eu une énorme incompréhension. C'était même un peu gênant, Clément Brossard.
Salut Pierrot, salut Vincent. Scène de tension, Vincent, hier à la Méno, entre les supporters et les joueurs du Racing, à la fin du tour d'honneur. Donc hier soir, quelques sifflets descendaient des travées, légers les sifflets pour commencer. On soulignera aussi qu'une banderole « Merci les Bleus » était aussi de sortie au sein du COP. Puis le capitaine Emmanuel Emega est arrivé pour demander aux supporters de se calmer, d'applaudir les joueurs, de les soutenir par rapport à ce parcours. Et puis là, les sifflets sont devenus plus bruyants. Insultes aussi, doigts d'honneur comme Martial Godot ou Guéladoué. Diego Moreira a préféré rentrer au vestiaire. Et quand on lui demandait s'il comprenait la colère des ultras, voici ce qu'il répondait hier soir.
Non, j'ai pas compris, mais on peut passer à la prochaine question, s'il vous plaît.
Ouais. Très piqué.
Ouais, c'est une bonne réponse.
Touché, Diego Moreira. En tribune, il y avait aussi Christophe. Christophe, il fait partie des animateurs du COP. On le connaît bien sur RMC et dans l'afterfoot notamment. Et selon lui, eh bien, c'est l'attitude des mégas qui a fait enrager les ultras. Le lien est depuis quelques temps rompu entre le capitaine et une partie de la méno.
Et puis j'ai vu Emega avec un accoutrement complètement ridicule commencer à avancer. Le gars, il était à 23h avec des lunettes de soleil, des chaînes en or en mode Mr. T ou Easy E. Enfin, t'avais l'impression qu'il était au Madison Square Garden alors qu'on était à la méno, qu'on venait de se faire sortir piteusement de la Conference League qui était un des objectifs affichés. Et puis voilà, comme d'habitude, il s'est mis en avant, comme d'habitude, comportement hautain. Ça fait des mois maintenant qu'il y a une grande partie du COP qui peut plus l'encadrer. C'est un peu lui qui concentre sur son personnage tout ce qu'on déteste dans la multipropriété. Son attitude ne fait qu'engendrer du rejet et parfois des insultes aussi.
Ouais, c'était très tendu hier à la méno entre les supporters et les...
Bon, donc on est en plein dans le sujet de la multipropriété. C'est pas la première fois qu'un club se déchire entre supporters et joueurs. Et il n'y a pas besoin de multipropriété pour ça. Mais il l'a très bien exprimé. C'est le mec qui est le symbole de ce que n'aiment pas les supporters dans ce mode de fonctionnement. Alors, je vois Jérôme qui hoche la tête, je vois Vincent qui a envie de se battre, donc par qui je peux prendre.
Vas-y, Vincent.
Est-ce que tu comprends les deux parties, une des deux parties plus qu'une autre?
Ouais, si tu veux, mais les supporters, je sais pas, c'est maintenant de c'est dur de tenir un club. Moi, j'aimerais qu'ils aient plus de solidarité, que ce soit moins dû. J'ai l'impression que les supporters, c'est un dû. Le club leur appartient, tout ça. Puis ça, ils savent que c'est faire les chèques en fin de mois dans un club de foot. Ils demandent je trouve que c'est des caprices sur caprices. Alors, multipropriété, lui, le mec, là, c'est une victime. Ils auraient leur fils. Tous les supporters, ils auraient leur fils à la place du mec. Ils donneraient tout ce qu'ils ont, et ça contredirait ce que le mec vient de dire pour être à la place de ce gars-là. Je trouve que c'est indu, le club c'est pas indu, ça vous appartient pas, vous êtes des supporters, point à la ligne, et vous êtes partie prenante du club, vous prenez du plaisir, mais un peu de solidarité, en plus c'est une sorte de défaite. Les mecs exigent des choses. Tu t'exiges quoi? Monte les cartes, tu doubles les cartes, après on exigera quelque chose. Toujours les mecs qui payent pas, qui exigent, c'est tout le temps pareil. Donc là ils ont des cartes à 300 balles l'année, qu'il n'y a pas un club qui sont tous à la ramasse, et là, la multipropriété leur plaît pas.
Trouver une solution. Des choses à la hauteur. Attends, juste dans deux secondes, tu dis ils exigent. Ils n'exigent que des choses à l'auteur de ce que peut attendre un supporter, pas au-delà. C'est-à-dire que ils ne se prennent pas quand même pour les patrons du club. Ils exigent un peu d'investissement, d'amour et d'attachement. Est-ce que je peux juste donner leur point de vue sans me faire interrompre? Ce qu'ils exigent, c'est un petit peu d'authenticité. Voilà. Vas-y,
oui, non, mais ça n'a rien à voir avec la multipropriété, parce que il peut y avoir aussi des publics qui demandent des comptes chaque match ou qui arrêtent de chanter parce que ça leur plaît pas, qui demandent le départ de leur président. Je sais, à Nantes, c'est comme ça tous les matchs. C'est ridicule, en fait. Là, je te rejoins. En revanche, l'attitude des mégas, celle de Moreira hier, est c'est indigne d'un sportif professionnel. Il faut jamais oublier, Vincent, tu l'as été, on est des privilégiés. Donc, soyons humbles. Le mec, mais dans la tribune, le gars, hier, ils ont fait les cakes. Moreira dit, on n'avait pas d'envie. Mais t'attends quoi pour avoir envie? Tu viens jouer au football, une demi-finale de Coupe d'Europe. Et Méga, c'est une star de clip de rap. Il est nul. Ça fait peur de voir une attitude pareille. Après, quand je te rejoins, mais le mec dans le public, il peut aussi dire, qu'ont foutu les dirigeants du club à lever le pied sur tous les matchs pour offrir ça hier. Moi, je reste persuadé que pour un club comme eux, fallait jouer tous les matchs à fond. Celui d'hier, il aurait pas été pire. Et après, quand tu as perdu, tu te l'as fait petite, multipropriété ou pas. Et Méga, il a même pas joué. Il est habillé comme le dit ce gars, comme un rappeur américain. Et il vient et il leur dit se taire. Non, mais mec, rentre au vestiaire, cache-toi. Et quand tu rentres au vestiaire, tu dis pas, on n'avait pas envie. Non, avant.
Marion.
après c'est à Strasbourg, les gens s'habillent très très mal là-bas. Je comprends ce que tu veux me dire. Je le comprends complètement qu'ils viennent faire le kéké et que ça énerve les mecs.
Marion, à toi.
Marion, vas-y.
Non, mais là, c'est là où je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, avec Jérôme, c'est que les gars, mais c'est plus Jérôme qui a pied dessus, donc c'est pour ça que je dis Jérôme. Je trouve que Emega, l'attitude, mais franchement, j'ai pas compris quoi. Déjà, t'es en tenue civile. T'as même pas joué le match. Qu'est-ce que tu viens devant le cop des supporters? Déjà pour commencer, en plus t'es habillé. Non mais franchement, t'as l'air ridicule quoi. Tu fais la resta, mais la resta de bas étage, ça. Enfin, à un moment donné, si à la limite t'avais gagné. Bon, tu viens faire un peu le kéké au milieu du truc, tu viens t'accaparer, à la limite, allez, c'est pas terrible, mais ça passe. Mais là, le problème, c'est que déjà, t'as les supporters qui, effectivement, ont les glandes parce que leur club a perdu. Et en plus, quand il y a des sifflets, tu te retournes en disant, genre, non, mais attends, je comprends pas pourquoi on me siffle, et siffler les autres qui sont derrière moi, quasi, à son attitude. C'est même déjà un peu limite. Quand tu vois la vidéo, tu te dis, mais en fait, quasiment, ils se retournent en disant, non, mais c'est pas à moi qu'on doit siffler parce que j'ai pas joué, il faut siffler ceux qui ont joué. Là, déjà, tout ça, j'ai pas compris. Non mais tout ça déjà j'ai pas compris, mais au-delà de tout effectivement sur la multipropriété, ça c'est des avantages et des inconvénients, on est bien d'accord qu'effectivement il y a eu des problèmes, qu'on a l'impression que Strasbourg c'est entre guillemets vraiment le club satellite sur lequel Chelsea s'essuie les pieds copieusement et que en fait toutes les prises de décision vont être en la faveur de Chelsea et qu'on verra bien ce qu'arrivera à Strasbourg. Là-dessus, je suis d'accord. Mais là où je suis complètement alignée avec Vincent, c'est qu'à un moment donné, sur des clubs comme ça, d'avoir quand même une assise financière qui te permet chaque année de pouvoir avoir une sécurité, c'est énorme.
Le Racing Club de Strasbourg, il n'y a pas si longtemps, en régional.
Exactement.
Il a été vendu au départ 1 euro symbolique.
Et je terminerai là-dessus. Excusez-moi. Il y a un autre exemple où ça aide quand même beaucoup le club, c'est l'Union Saint-Gilloise, qui est une multipropriété de Brighton, et qui auparavant était un club très moyen de Belgique, et aujourd'hui joue à la Ligue des Champions, et quasiment un des meilleurs clubs de Belgique, alors qu'avant il n'existait pas. Donc oui, ok, ça a toujours ses défauts, la multipropriété, mais ça a aussi d'énormes avantages. Donc moi, pour moi, ce qui s'est passé hier, c'est beaucoup plus la mauvaise attitude d'un joueur qui est venu vraiment énerver les supporters, que la multipropriété qui est en cause.
Je rappelle juste qu'ils sont remontés en Ligue 1 sans personne, et que justement, les clubs étaient très identifiés à leur club et c'est aussi
mais
je le rappelle parce que
il n'y a pas si longtemps ils étaient beaucoup plus bas qu'à Ligue 1
elle s'inscrit dans un historique récent il y a quand même des raisons, c'est-à-dire que avant c'était le club ultra identifié régional et puis du jour au lendemain on est devenu une multinationale qui est un satellite de Chelsea, il y a des mecs qui le vivent mal, voilà,
je l'entends
mais la conséquence de tout cela n'est pas le débordement des joueurs hier. Tu peux faire partie d'un club multipropriété.
Non, mais la difficulté, c'est d'avoir
déjà
des joueurs
signé à Chelsea
dans
et
ce type
humble,
de club qui soit aligné avec l'histoire, la culture du club, tout en étant finalement que des mercenaires. C'est ça qui est très difficile.
Parce que les supporters vivent mal aussi, c'est le fait que Strasbourg, cette année, fait demi-finale de Coupe de France, demi-finale de Coupe d'Europe, mais finalement, la saison prochaine ne sera pas en Coupe d'Europe. Et c'était le projet qui était annoncé avec la multipropriété. Il n'y aura pas de Coupe d'Europe.
Allez, c'est l'heure du journal moyen.
On va redescendre la deuxième division et de rejoindre de l'authenticité. Du club.
Oui, alors c'est vrai que après la défaite en demi-finale contre le Rayo Vallecano, rien à voir avec la multipropriété aussi.
Alors, c'est que sportif. Là. C'est pas parce que Chelsea est propriétaire de Strasbourg qu'ils ont perdu contre le Rayo Vallecano.
À un moment, faut.
Mais le problème, c'est qu'il y a eu Emega qui s'affiche avec Chelsea début janvier.
C'était maladroit, ça.
Ouais, c'était maladroit,
c'est ça. On va parler biathlon tout de suite, messieurs. Tu aimes le biathlon?
J'adore.
Je t'habillerai, Stephen, pendant les JO.
Ouais, et surtout avec mon gars Emilien Jacquelin.
Juste après son. Oui, c'est vrai que c'est ton gars, régulièrement dans Stephen Brunch. C'était Pierrot juste après l'obtention de son gros globe.
Voilà, c'était fin de saison, c'était pas les JO.
Non.
C'est Lou Jean Monod qui remporte la Coupe du Monde de biathlon.
RMC, le cri du cœur du super Moscato Show.
Lou Jean Monod, vainqueur de la Coupe du Monde de biathlon, de 4 médailles olympiques également cette saison, et dans le super Moscato Show. Salut Lou.
Salut.
Bonjour. Bienvenue.
Bienvenue, Lou.
La saison est terminée. Ça y est, là. Tu peux souffler.
Oui, gentiment. C'est tournée média, mais je soufflerai un petit peu mieux dans 3 semaines.
Alors, tu as gagné la Coupe du Monde de biathlon, le classement général, en plus de 3 petits globes, mais
En gros, ça veut dire que tu es la meilleure biathlète du monde, tu peux vivre avec ça pendant un an. Magnifique.
Oui, c'est pas désagréable, c'est clair.
Alors surtout que on rappelle que cette quête elle a été longue et difficile quand même, hein. C'est un vrai accomplissement dans une carrière de gagner la Coupe du Monde, le classement général de la Coupe du Monde.
Oui, complètement. Moi, je finis deuxième deux années d'affilée sur les deux dernières années. Et, pour moi, c'était le plus gros objectif de ma carrière d'arriver à récupérer ce globe de cristal. C'est même plus important qu'une médaille d'or olympique à mes yeux. Donc c'est chose faite et maintenant je peux passer à l'étape 2 qui est la médaille d'or olympique.
C'est fou, on se rend pas compte parce que même dans le ski alpin, il y a beaucoup d'athlètes qui nous disent, moi, ça va vous choquer, mais une médaille olympique, c'est en dessous de la Coupe du Monde.
Par exemple, ouais.
Non, mais c'est fou,
ouais.
de gagner la Coupe du Monde, ouais. Quoi. C'est fou.
Ouais,
on a du mal à le comprendre, nous.
En fait, en termes de sportivement, ça veut dire qu'il faut arriver à performer sur 5 mois avec une exigence sur toute la durée de l'hiver et puis avec de la fatigue et surtout, ouais, c'est régulier, quoi. Donc, c'est pas un one shot ou. Ouais. Où en fait, en plus, tout le monde est extrêmement tendu sous pression et où en fait le tir peut envoyer le meilleur mondial valdinguer à la 20e place. Et ça a plus de sens à mes yeux, le gros globe.
Bah, le gros globe, c'est le cadeau de l'année sur des Jeux Olympiques. Il y a des outsiders qui ont gagné parce que ils étaient là le jour J, c'est la course des jours, et c'est pour ça que c'est peut-être plus important pour les athlètes, c'est-à-dire que tu es la meilleure de l'année 2026.
Alors je suis pas ventriloque, c'est Eric Dimeco qui parle parce que je
voyais elle écarte les yeux,
elle me regardait comme ça, je dis je suis pas ventriloque.
Non, on m'avait briefé une demi-seconde avant d'arriver.
Ça s'en prend toujours.
Lou Jeanbonneau dans le Super Moscato Show. On va aussi se souvenir du dénouement de l'an dernier où, à l'avant-dernier virage, dernière course, tu chutes et ça te prive de la possibilité d'aller disputer la victoire finale, le classement général. Est-ce que tu y repensais un moment? Est-ce que cette victoire en est d'autant plus belle?
J'y ai repensé, mais j'y pensais, je pense, une semaine après être tombée, qu'en fait, tout ce que j'avais pu vivre sur cette saison-là, ça me permettrait de le gagner. Et j'avais l'impression que c'était, limite que c'était écrit, qu'en fait, c'était une part du chemin. Et ça m'a aidé aussi à être tout à fait finalement, à presque aimer cette chute, dans le sens où en fait, j'ai vraiment bien performé. La saison en elle-même était extraordinaire. Que j'étais extrêmement contente pour Franziska, qu'elle l'ait gagné parce qu'elle le méritait.
Franziska Preuss.
Voilà, tout autant, voire plus. Et qu'en fait, si c'était qu'une partie du process, et ben, c'est que tu ça m'allait prends, et que je le prenais, ouais.
Exactement. Les adversaires, c'est tout le temps les mêmes, un peu, comme dans tous les sports. Vous avez quoi comme relation dans ce milieu-là? C'est une bonne relation?
Avec Franziska, très très bonne, ouais. En fait, ça dépend aussi de la capacité à chaque athlète de discuter, parce qu'on est tous des fois plus ou moins sous pression. Il y a ceux qui aiment bien discuter pour se détendre, et puis ceux qui ferment complètement. Donc, en général, les relations, elles dépendent pas mal de ça.
En plus, vous êtes armé, donc vaut mieux que...
Ouais. Ah, voilà.
Faut vraiment tout aller gentiment, pas en frontal.
Comment on fait, Lou, pour être coéquipière et adversaire? C'est-à-dire, là, je vais revenir un peu sur les jeux, puisqu'il y a ces médailles d'or en équipe, et puis après, il y a les autres médailles en individuel. C'est un sport où vous êtes coéquipier et coéquipière, et le lendemain, faut être adversaire. Comment on fait pour faire le switch mental?
Ce qui, moi, m'a beaucoup aidée, c'est, moi, je trouve même que j'ai attaqué à vraiment bien performer quand j'ai réussi à accepter le fait qu'en fait, je veux faire la meilleure course possible avec mes ressources, et qu'en fait, si je suis que troisième ou même quatrième ce jour-là, si j'ai donné le meilleur de ce que j'avais à donner, et ben je suis tout à fait ok avec ça.
Et même si c'est une Française qui est devant,
parce que techniquement, si elle était meilleure, ben elle mérite d'être devant. C'est un peu
concentres que sur toi en fait.
Ben c'est en tout cas j'essaye.
Oui, dans la mesure du possible. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est quand même les Françaises en biathlon. On en a eu plus que des hommes qui ont gagné Grand Globe de Cristal, puisque t'es la cinquième de l'histoire à décrocher ce Grand Globe de Cristal. Chez les garçons, il y a eu que Raphaël Poiret et Fourcade. Bon, il en a gagné. Pardon.
Et Quentin Fillon-Maillet.
Et Quentin, pardon. Et Fourcade, on a eu beaucoup plus à lui tout seul. Qu'est-ce qui fait que ce sport, que les Français, et en l'occurrence les Françaises, brillent autant dans cette discipline? Est-ce qu'on a une marque de fabrique? Est-ce que c'est l'émulation? Est-ce que l'histoire de notre sport fait que, on est inspiré par les champions avant nous?
Je pense qu'il y a un petit peu de tout. Il n'y a pas un seul paramètre qui fait toute la diff. Il y a, non, je pense qu'on a un très bon staff. En tout cas, à mes yeux, j'ai un excellent entraîneur. On a un très bon staff technique aussi au niveau fartage. Puis même après, l'entourage un peu plus externe avec la préparation physique, etc. On est extrêmement bien entouré. Et puis je pense l'émulation. En tout cas, dans le groupe des filles, je pense qu'on a toutes des qualités un petit peu différentes et on arrive à se challenger toute l'année sur des points qui sont différents. Donc je pense que c'est un petit peu de tout.
Il y a plus de monde, non? C'est beaucoup plus populaire comme.
Ben, c'est ça.
Voilà, c'est quand même moins cher à la base peut-être que de faire du fond, que de faire de l'alpin, non?
Que l'alpin, c'est sûr que oui, je pense. Mm-hmm.
Le farteur, là, si t'avais le cordonnier du coin, ça marche pas, quoi. Non, mais c'est vrai, il faut des techniciens, des mecs qui soient des bons artisans.
Après, ce qui est plutôt bien fait, c'est que sur la Coupe du Monde, on a 6 techniciens qui travaillent pour nos skis sur le circuit B inférieur. C'est un fartage commun, donc ça demande un petit peu moins de.
C'est-à-dire que tout le monde a le même farteur sur tes adversaires, tout ça.
C'est les jeux. Alors, je crois, parce que du coup, j'ai pas vécu cette partie-là du circuit B, mais il me semble que c'est des techniciens qui sont sélectionnés dans des équipes qui ça doit changer différemment à chaque fois, et c'est l'organisation qui choisit le fartage.
Là, faut être malin, t'arrives avec un billet, tu restes le farteur.
Eric, je voulais ajouter quelque chose.
Non, mais je pense qu'en réalité, c'est toujours le haut de la pyramide qui tire le bas. C'est-à-dire que quand tu vois des champions à la télé, ça amène plein de gamins à pratiquer ce sport. Et plus il y a de gamins qui pratiquent ce sport, plus il y a de la qualité qui monte. Voilà, qui émerge naturellement, me semble-t-il. C'est grâce aux champions, et peut-être à Poiré d'ailleurs, un des premiers, que Fourcade est arrivé, etc. pour les autres derrière.
En haut de la pyramide, faut pas être nombreux quand même, parce que tu peux glisser, Eric.
Lou, est-ce que vous avez conscience, avec les filles, même avec les mecs, de la dimension de votre sport que le biathlon est en train de prendre sur la chaîne L'Équipe? Je parle de la Coupe du Monde, pas des JO. La moyenne sur des courses, c'est 1 million de téléspectateurs. Il y a eu un pic à 1,7 million sur la Masters féminine. À Novemesto. Est-ce que vous le ressentez au quotidien, ça, même sur votre popularité, sur des partenaires qui arrivent
dans la rue?
Alors chez moi un petit peu, parce que dans le Jura, c'est le sport national chez moi. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est là quand je suis arrivée, j'ai fait un vol Oslo Paris pour arriver hier, et dans l'avion, tout simplement l'équipage qui lui fait une petite annonce, et il y a, ressenti 90% de l'avion qui applaudit. Donc, j'ai l'impression que tout l'avion était au courant, enfin connaissait le biathlon et puis avait suivi, était venu à Oslo. Et je trouve ça impressionnant, parce que j'étais venu, les rares fois où j'étais venu avant à Paris, il y avait.
Ils t'ont mis en business, j'espère. Moi, s'il y a 90% de l'avion qui a produit, je me lève avec un chapeau,
je vire un mec devant.
Lou Jean Monod dans le Super Moscato Show, Lou qui remporte la Coupe du Monde, le classement général de la Coupe du Monde, mais aussi trois, ce qu'on appelle petits globes de cristal, c'est-à-dire trois disciplines, en l'occurrence le sprint, l'individuel et la poursuite. Il ne manque que la mass start. Il y a 4 médailles au JO, dont 2 en or sur les 2 relais. Tu as 27 ans. Qu'est-ce que tu as comme objectif à accomplir aujourd'hui dans ta carrière après avoir fait cette saison?
L'or olympique en individuel, l'or sur des championnats du monde en individuel. Et il me reste 4 ans pour les obtenir. Donc
en France, c'est
plutôt confiante.
L'or olympique en France.
Ouais. Ça serait
bien.
Moi, j'ai une autre petite question. Il paraît que tu es fan de tatouage. Est-ce qu'il y en a un que tu vas faire là après cette saison juste incroyable? T'as prévu un nouveau?
Tu vois ce qu'il y a derrière mon Moscato Show?
Je trouve que je mange déjà biathlon, je vis, je respire biathlon, donc j'aime bien que ce soit que les tatouages soient un peu une partie différente de moi. Mais par contre, j'aimerais bien faire un tatouage qui soit relié à l'olympisme, mais pas forcément les anneaux.
Les anneaux olympiques.
Un petit lien, mais qui soit pas
pas sur le mollet, par contre. Pas sur le mollet. Ça fait bon au camping, le mollet. Je te jure, le fait pas.
Peut-être qu'on en a déjà.
Non,
jamais dire ce genre de choses.
Mais je lui ai demandé, Pierrot. Il fait pas.
Et toi, Vincent,
Une dernière intervention d'Eric.
Ah, Eric. Et toi, Vincent, ton tatouage, du coup, c'est le titre de champion de France. Montre-le à Lou. Montre-le pour peut-être à la Rami de faire le même.
Peut-être. Lou, Jean Monod. Le ski.
Merci beaucoup, Lou. Et merci d'être
venu. Merci, Lou. Et bravo.
Un peu de repos quand même
après la pandémie. Merci de t'admirer.
Tu vois, nous, quand on est comme ça. Tu as aussi expliqué dimanche que tu avais fini la saison épuisé.
Un championnat de France ce week-end, mais après ça, c'est sûr, vacances.
Merci beaucoup, Lou.
La fois où on avait été en montagne, vous étiez revenu en bus ou sais pas trop où, là. C'est un enfer,
non? C'est pas assez clair comme question.
Hein. Ouh, là, ça, c'est.
La dernière fois qu'on est allé à la montagne, vous êtes revenu en plus.
C'était à la montagne.
C'était un manque d'éléments de contexte. Souviens-toi, si
c'était à la montagne, il neigeait.
Merci, Lou.
Excellente anecdote.
C'est le super Moscato. J'ai un petit globe, énorme. Toi. Depuis qu'on a deux étoiles, on a un petit globe quand même.
Back to back.
En même temps, si t'as pas le globe quand tu gagnes deux fois la Ligue des Champions, ça sert à rien. Toi, l'as eu très tôt le globe.
Ouais, le gros, très gros.
Ouais.
Très
gros globe. En deuxième division, t'avais déjà le globe.
Champion de France, le Pro B, hop, le globe, il est arrivé direct.
MVP de Pro B ou pas?
Oui, c'est exact. Il faut réhabiliter le joueur que j'ai été, Pierrot.
Est-ce qu'il vaut mieux être MVP de Pro B ou joueur anonyme de Pro A?
Je sais pas, j'ai été les deux, moi, Pierrot.
Le journal moyen arrive tout de suite, un grand journal moyen, on va se moquer des politiques. Alors, on adore ça, notamment, restez bien là, un extrait que j'ai pas assez diffusé dans l'histoire du Moscato Show, Marlène Schiappa, au concert de Laurent Saint-Martin, un de tes candidats favoris, Pierrot, à l'époque.
Au concert de Laurent Saint-Martin?
Non, au meeting.
Ah, okay.
Au meeting de Laurent Saint-Martin, qui était candidat aux européennes,
c'est
au parc floral.
Je sais même plus qui c'est sur
Il était ministre il y a pas très longtemps.
C'est un favori de Pierrot, Laurent Saint-Martin.
Il nous a pas marqué, lui. Hein.
C'est centre droit, Pierrot, je sais pas où il est, Pierrot.
Même lui, c'est pas où il est, Pierrot.
Journal moyen, c'est tout de suite sur RMC. Allez, on revient.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien
Aigouin. Vous êtes sur RMC, le meilleur du Super Moscato Show. Il est 15h45, journal moyen, première édition.
L'actu, la culture, les médias, un nouveau meeting raté d'un politique. C'est magique, on adore ça. Merci, merci la vie. Et merci les politiques finalement. Ils ne font rien. Shakira a enflammé le Brésil. Et puis un tu préfères qui nous concerne tous autour de la table. Vous écoutez RMC, c'est le 2646e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen. Première édition.
Ça faisait longtemps, un peu de politique et j'aime ce jingle Moscato Show politique. Jingle Moscato Show politique.
Ben, je vais le surveiller avec attention ce qui se passe là-bas parce que bon, il y a quand même des soupçons de comment on appelle ça, de financement de campagne électorale pour notre ami Monsieur Valls.
Bruno Le Maire, quel saccage pas de miroir à la maison. On estime que la France est sur la mauvaise patte depuis la dissolution de l'Assemblée. On n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus, Pierrot, quoi.
On a un peu plus de tiro.
Aucun respect d'Adrien envers Eric.
Adrien,
il n'y a plus rien là.
Ah, j'étais à l'antenne. Mon micro était ouvert.
C'est dur pour Eric.
Il y a des problèmes de
finale se marier.
Petit même hier.
C'est le retour d'une Madeleine de Proust du Moscato Show dans le journal moyen. Ce sont les discours, les meetings ratés des politiques. Nouvelle cliente, bienvenue. Marine Tondelier, Les Verts, secrétaire nationale des écologistes. En meeting, une réunion, elle tente de relancer un slogan. Elle tente de chauffer un peu la salle avec un slogan. Je pense qu'elle y a réfléchi avant avec ses conseillers en communication, peut-être des gens proches d'Éric Dimeco aussi. Ça fait 90 ans, Vincent, que le Front Populaire en 1936 était au pouvoir, donc voilà, c'est historique quand même.
C'est parti de là.
Non mais laissez jouer là-dessus, pourquoi pas, tu vois, ça peut être pas mal parce que c'est quand même l'histoire, on aime bien l'histoire. Elle veut faire participer le public, écoutez.
Il faut pas se tromper.
Le public est réactif, c'est incroyable, la salle a été briefée, c'est un show à l'américaine. Marine Tondelier.
Ce soir, nous le disons à nouveau. Nous sommes en 2026, ça fait 90 ans, et ça... Alors attendez, on va le refaire, ils n'étaient pas prêts.
Ça c'est bien, c'est génial parce que ils n'étaient pas prêts. Donc on va voir la suite.
Quand elle dit alors attendez, on va le refaire, on dirait vraiment Castaner.
On va le refaire, ouais. Écoutez l'intégralité, à la fin le public suit, mais vraiment c'est le feu dans la salle, ils ont été briefés.
Ce soir, nous le disons à nouveau, nous sommes en 2026, ça fait 90 ans, et ça... Alors attendez, on va le refaire, ils n'étaient pas prêts, merci à toi.
Merci.
Nous sommes en 2026, et ça...
Ça suffit.
La deuxième fois c'était
mais la voix,
c'est pas mal.
Terrible.
Mais il nous manque parce que lui aussi a eu du mal à placer sa voix. C'est le goth de l'exercice, Christophe Castaner. Meeting
phénoménal.
C'est l'histoire du Moscato Show. Merci Monsieur Castaner. Nous sommes en 2017. Emmanuel Macron n'est pas président de la République. Il est en campagne. Campagne plutôt bonne puisqu'il a été élu à Marseille, Zénith de Marseille. Christophe Castaner fait le speaker. Il se prend pour Marc Maury, vous savez, le speaker de Roland Garros. C'est devenu un moment historique de la politique française. En fait, c'est juste avant que Emmanuel Macron arrive sur scène.
Tout à l'heure, il y a un match.
Ah.
Et certains ont commencé à l'évoquer.
Ouais.
Et à Marseille, on a un truc. Ouais. Vous savez, c'est
Je sais plus comment c'est, qui saute pas et pas.
Oh mince.
Marseillais. Alors je vous propose de vous lever. Allez. Et on va le faire ensemble. Ouais. Allez, on y va. Oh là, 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 là. Qui saute pas n'est pas Marseillais. Ok. Qui saute pas n'est pas Marseillais. Ouais. Qui saute pas n'est pas Marseillais.
Non, mais quel.
Allez, 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 allez.
Alors, attention, parce que moi je croyais que c'était fini. Mais attends, Jérôme, c'est pas fini. Alors, c'est pas fini. Il dit à la salle, parce qu'il croit qu'il est bon. Donc il dit attendez, j'en ai une autre pour finir. J'en ai une autre. Et le public se dit ouais, on y va.
Et je vous en propose une autre. Ah. Qui saute pas n'est pas Macron. Oh. Qui saute pas n'est pas Macron. Mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements au nom Emmanuel Macron.
Il y a qui va. Emmanuel, t'as vu, il ne dit pas. Il y a Emmanuel.
Énorme machin paralysé.
Là, je suis mort. Il aurait pu faire demain. Je suis derrière le rideau. Je me mets en courant, je prends la maillot, je rentre à l'Elysée.
Mais vous croyez qu'on a atteint le sommet? Mais pour moi, j'ai un autre petit bonbon à égalité. Trop sous-exploité, je pense que je voulais passer qu'une fois ou pas, je sais plus. Juin 2021, élection régionale, campagne, meeting à Paris du candidat Laurent Saint-Martin, candidat macroniste. Il veut être élu président de région. Nous sommes au parc floral à Paris, dans le 12e arrondissement, c'est un grand parc où il y a plein de fleurs.
Dans le bois de Vincennes.
Il y a un speaker et qui soutient sa campagne puisqu'elle est ministre, Marlène Schiappa. Et là, c'est magique. C'est tout le stade qui va s'enflammer.
À chanter. C'est l'île de France qui va s'enflammer. Votez Laurent, votez Laurent. Allez, allez. Quand le parc floral se met à chanter, allez debout. C'est l'île de France qui va s'enflammer. Votez Laurent, votez Laurent. Allez, allez. Quand le parc floral se met à chanter, c'est l'île de France qui va s'ambiancer. Votez Laurent, votez Laurent, allez, allez.
Incroyable,
c'est horrible.
Bon, il n'a pas été élu.
Bizarrement, il n'a pas été élu.
Il n'a pas été élu.
Parce qu'il était plein de charisme.
Il est devenu ministre par la suite. Hein.
Tu vois ça, la honte, vois ça par rapport aux gens de l'homme. Ça mériterait 15 jours de troll. 15 jours de troll.
Merci.
Ça, c'est des élus quand même.
Le pire, je me demande si c'est eux ou les gens qui vont les voir. Parce que qu'est-ce que tu vas voir ces gens-là? C'est les peintres, c'est les clowns. Ouais,
sans transition, revenons à la base du journal moyen première édition. Le foot et la musique. Je vais faire une mise au point par rapport à ce que je vous ai raconté en début de semaine. OM et musique. Jingle OM et musique.
Et c'est long chemin de croix. Quoi.
Purée. C'est comme ça tous les ans, on est devant au classement avant de disparaître. Marseille, c'est des traumas qui se répètent trop de fois. Un putain de mal-être, De Zerbi est parti, Longoria l'a suivi. Notre club n'a pas bonne mine. On est vraiment cocu, même le gardien Troubine nous l'a mise dans le cul.
En début de semaine, je vous passais cette parodie, cette reprise de la Bohème qui exprime très bien ce que ressentent les supporters de l'OM. Et on s'était posé la question en direct. J'avais vu ça circuler sur les réseaux sociaux. J'avais pas les détails, mais à culpa. On s'est posé la question même. Je vous ai dit, est-ce que c'est pas de l'IA, etc. Pas du tout. Les auteurs m'ont gentiment écrit sur Twitter. Je les remercie. Après la séquence, ils sont super sympas. En fait, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Rien à Foot avec un vrai chanteur. Depuis 2022, il parodie des chansons de foot, de sport. Il publie une chanson par mois. Franchement, allez voir leur chaîne YouTube, Vincent. Rien à foutre. Ils ont du talent. Alors, ils ont de l'humilité parce qu'ils m'ont dit on est un peu les Cazards du pauvre. C'est-à-dire qu'on essaie de faire comme Julien Cazard, un peu qui chante régulièrement dans les émissions sur RMC. Mais franchement, c'est d'un très très bon niveau. Ils ont de l'humour.
D'abord, ils ont du chant.
Le chanteur est génial.
Les paroles,
c'est rigolo.
C'est génial. Ouais,
ils sentent bien le foot et voilà, ça parle aux supporters de l'OM. Mecs, bravo les gars.
Bravo. Et puis les paroles, c'est la route.
C'est bon, les paroles, c'est bon.
Ah ouais, c'est très très bon.
Ça me donne pas de vide. Un petit tu préfères pour terminer, on a le temps. Allez, tu préfères. Estelle Midi, tu préfères midi 15h tous les jours sur RMC et RMC Story. C'est très simple et ça concerne tout le monde autour de la table. Je sais que Pierrot a une vraie vision là-dessus.
Ah bon ?
Tu préfères ce soir voir le match chez toi ou dans un bar. Tour de table, bah Pierrot.
Chez moi tous les jours.
Chez toi tous les jours.
Bah, dans un bar, c'est affreux, tu bois rien.
Tu bois rien.
Avec des cons.
Denis.
Non, chez moi.
Tu rates la moitié des trucs.
20-20.
Un grand match, surtout un grand match.
Ouais.
À la limite, un match.
Sans
importance, à la limite.
Vincent, je pense qu'on a l'idée. Moi, je suis un mec de bar. J'aime bien aller voir les trucs dans les bars. Je suis un mec de bar.
En fait, la condition pour regarder dans un bar, c'est d'être bien installé. Mais tu n'es jamais bien installé.
Il y a toujours des gens qui rentrent, qui sortent.
Chez Jean-Pierre, on est bien installé.
Tu loupes des actions, un mec qui passe devant l'écran.
Ça m'a gêné la dernière fois qu'on a vu le Real Madrid contre le Bayern. Ça m'a pas semblé que tu étais gêné par ce genre de truc.
Non, mais si c'est pas
le seul qui s'est jeté. Le seul qui s'est jeté à genoux.
Ça dépend la population dans le bar.
Quand le Real a marqué, c'est lui.
Il était bien au bar. Il était bien au bar.
À genoux, les bras levés. Donc, il m'a pas semblé que tu étais profondément gêné par ce genre de choses.
Et j'y jouais pas.
Et toi, Jérôme ?
Désolé, c'est pas pareil.
Écoute, moi, je serais très bar parce que c'est il y a de l'ambiance et quand t'as la maison il y en a moins, mais ce soir je suis avec mon petit Lulu qui adore le foot, donc on va regarder la maison et très bien. Très bien,
voilà, le foot en famille. Merci. Et vous répondez, voilà. Vous répondez sur Twitter d'Estelle Midi.
Ton petit
à la
Lulu,
maison,
c'est l'onde de code pour du
truc avec
non, c'est pas un nom de code.
C'était très gênant. Allez Laurent,
c'est un vrai métier, hein, faut savoir faire. Faut prendre des professionnels comme Mohamed Bouafsi pour l'arrivée de la flamme à Marseille.
Allez, dans un instant.
C'est méchant ça.
Mais pourquoi,
parce que Mohamed Bouafsi, c'est un Haoutien. Bon. Il est dans sa voiture là, il t'entend, Pierrot.
Mais il était très bon.
Avec Jules et Florent Maloudou.
Jules qu'il appelle Julien.
Oui, Julien Marie de son vrai nom. Dans un instant, Pierrot. Souviens-toi, au mois de mai, Antoine Dupont était critiqué.
Ah oui.
Remis en question par certains consultants, par des journalistes.
Par Stephen Brun, non ?
Non, surtout Denis Charvet.
Par Denis Charvet également. On en avait débattu.
Allez, on en reparle tout de suite après les infos de 16h sur RMC.
RMC jusqu'à 18h.
Le meilleur du Super Moscato Show.